Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
En couple, se donner pour aimer sans s'oublier soi-même, c'est le titre d'un livre, c'est le titre aussi au fond de cette série des clés pour vivre où je reçois son auteur, Dom Paul Préau. Bonjour Dom Paul Préau.
Bonjour.
Alors je ne vous présente plus, si ce n'est que je rappelle que vous avez et vous exercez une vraie paternité, puisque vous êtes modérateur général de la communauté Saint-Martin. On peut parler de paternité.
Bien sûr.
Ouais, donc, qui dit paternité dit aussi responsabilité aussi de tous ces frères prêtres qui vous sont confiés.
Oui, par l'Église. Oui. Des prêtres et veillés à leur croissance.
Nous parlons du couple depuis le début de la semaine. Des prêtres, des âmes sacerdotales qui sont appelés, tout comme un couple est appelé à se pardonner. Un couple est appelé aussi à vivre ce temps présent avec un passé, des contrariétés, des échecs. Ça peut être aussi des drames aussi dans une vie aussi de prêtre. Donc, rechoisir tous les jours et redire ce oui. Donc, ce oui de tous les jours, donc dans la fidélité, puis la persévérance. Donc, ce sont, au fond, ce sont deux vocations qui traversent presque un peu les mêmes crises.
Je pense que oui, parce que c'est la personne humaine qui est derrière. On a deux vocations très belles, complémentaires. Celle du sacerdoce, du sacrement de l'ordre, qui est une consécration on donne sa vie pour le sacerdoce baptismal, le sacerdoce de tous les baptisés, et un couple. Ce sont deux baptisés, donc deux personnes qui portent ce sacerdoce, qui doivent apprendre à offrir leur vie, à être comme Jésus. Un couple doit être l'icône de la Trinité et l'icône aussi de Jésus. On pourrait dire que le couple porte la Trinité, il est trinitophore, et parce qu'il est trinitophore, il doit être trinitophosphorescent. C'est-à-dire transmettre la lumière de la Trinité Sainte. C'est-à-dire que quand on voit un couple qui s'aime, un couple qui a traversé des épreuves, un couple qui a pardonné, un couple qui n'en est pas resté aux déceptions, un couple qui vit de la vie de Dieu, mais c'est un couple qui rayonne. C'est pas forcément le couple hollywoodien rêvé. Ça, c'est du rêve. Mais le vrai couple, c'est celui qui rayonne au jour le jour de la vie de Dieu, dans le quotidien. Faire toute chose dans cet amour et dans cette vie, c'est ça, en fait, la sainteté au quotidien.
Alors, au fond, on parle de cette sainteté au quotidien, dans la vie conjugale, comme dans la vie sacerdotale.
Bien sûr.
Le prêtre, tout comme le couple, est appelé aussi à rayonner à la sainteté.
Bien sûr.
Donc, on en parlera demain de cette sainteté, parce que le but, et vous le rappelez aussi dans cet ouvrage, mais ça clôturera un petit peu les entretiens de la semaine. C'est viser le ciel et l'éternité.
Ce que je me dis, c'est que souvent, il peut y avoir de la déception dans un couple.
Et beaucoup de regrets.
La déception parce que l'autre n'est pas à des défauts, l'autre, il n'est pas exactement ce que je voudrais. Mais pire, l'autre ne vient pas me combler. Combien de fois je l'ai entendu ? L'autre ne me comble pas. Mais on ne peut pas attendre de l'autre qu'il soit le tout de mes aspirations. C'est très important. Sinon, on fait de l'autre une idole. Or, l'autre, c'est un compagnon qui me permet de cheminer vers celui qui a la plénitude, qui est Dieu seul. Dieu seul suffit, disait Thérèse d'Avila, hein, Dieu seul suffit. Eh bien ça, c'est important aussi de nous le dire. Vous voyez, en dépit de ses efforts, votre mari, votre femme, peut tomber un peu à côté de la plaque dans ce que sont vos désirs. C'est pour cela que essayons de voir ensemble ce qui peut nous unir pour marcher ensemble, et non pas dans la déception, mais main dans la main, comme des compagnons.
Alors vous avez parlé, depuis le début de la série, vous avez aussi évoqué, dit un mot aussi sur l'importance du silence, de la prière. Parfois dans cette histoire et ce chemin, vous avez parlé de chemin, dans cette vie de couple, avec des histoires communes, des blessures, peut s'installer, et ça peut faire paniquer aussi ce couple, dans cette histoire à deux, peut s'installer une forme de solitude dans cette vie conjugale. Ça peut faire effrayer, poser et interroger le couple, parce qu'ils se sentent très seuls. Et pourtant, dans cette histoire, ils sont deux.
C'est Charles Péguy qui a écrit cette très belle formule. Heureux deux amis qui s'aiment assez pour se taire ensemble. Un conjoint qui est votre confident par excellence, c'est comme un meilleur ami. Donc je pense que cette citation de Peggy est applicable à l'amitié comme à la vie conjugale. Vous voyez, on dit souvent la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Ben, c'est très beau, c'est exactement ça. La communication dans le couple est une chose essentielle, mais à la condition qu'elle soit au service de la communion. Il ne s'agit pas simplement de bien communiquer. Il faut communiquer en vue d'être unis, en vue de vivre une communion de vie et d'amour. Parce qu'il y a des couples qui sont qui recherchent une espèce de perfection de la communication, mais en fait, c'est le cœur qui doit d'abord communier. Hein? Donc, prenons la peine de relire cette formule de Charles Peggy. Savoir se taire ensemble, vivre l'un à côté de l'autre, l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, dans l'amour.
Alors, avec justesse, vous parlez aussi de cette communication. Il faut certes cette clé de la communication dans cette histoire à deux, mais vous venez de nommer cette communion dans la vie conjugale. Et j'aimerais bien évoquer avec vous, cette communion ne peut être profondément ancrée que si le couple, dans son histoire commune et individuelle, a sa propre vie intérieure, et j'y reviens à cette vie intérieure. S'il n'y a pas cette vie intérieure dans l'histoire de chacun, comment arriver à cette communion dont vous parlez, qui est le sommet au fond dans la vie conjugale?
Le silence, ce n'est pas un vide. Le silence est une disposition de notre âme qui nous ouvre au Verbe. Vous avez remarqué que dans la Trinité, il n'y a qu'une seule parole. Donc elle est très silencieuse, la Trinité, parce qu'elle est amour. Il n'y a qu'une seule parole, c'est le Verbe. Or, nous-mêmes, nous sommes des humains, donc nous avons besoin de beaucoup de paroles. Mais nous avons besoin que nos paroles soient habitées, enchâssées dans le silence. Une parole qui ne jaillit pas d'un cœur silencieux, c'est une parole qui est utile, inutile, futile, et qui peut blesser l'autre. Donc, apprendre dans une communion et dans une communication à laisser le silence parler, c'est garantir que la communion soit une vraie communion.
Alors on apprend tout ça dans des séminaires. Comment on apprend un peu à entrer pleinement dans cette communion dont Paul Préau? Quelle est un peu la formule?
C'est que le silence, c'est la condition de l'écoute. C'est le grand mot.
Alors, c'est d'où la difficulté aujourd'hui, du silence. Bien sûr. Beaucoup d'agitation, beaucoup de bruit, beaucoup d'activisme, beaucoup d'écran.
Oui.
Ouais. Alors, on entre comment aujourd'hui pour entrer pleinement dans un silence habité?
Je pense à cette formule du psalmiste. Tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Bien, les couples doivent retrouver le chemin du silence. Parce que ce silence n'est pas indifférence, il est tout le contraire. Ce silence m'ouvre au mystère de l'autre. Et donc au mystère de Dieu, bien sûr, mais au mystère de l'autre. L'autre est mystère. Je ne peux pas enfermer l'autre dans ce que je perçois de lui. Et à cette valeur du silence, j'ajouterais, si je peux me permettre, l'éloge de la lenteur. Le contraire du silence, c'est le bruit, mais le contraire de la lenteur, c'est la précipitation. Et parfois, nous sommes poussés par nos émotions et pas assez par la réflexion. Le silence permet à des émotions de bien s'ordonner à une véritable réflexion et de façon à ne pas enfermer l'autre dans une perception de lui.
Alors vous avez parlé avec justesse du mystère de l'autre, de ce silence. Ce silence, au fond, conduit à une certaine contemplation, et cette contemplation conduit
à
l'amour et l'émerveillement.
À l'émerveillement. Et à l'émerveillement et à l'admiration, bien sûr. Et là, on peut aimer. Et là, on peut vraiment aimer, parce que c'est quand on est dans cet émerveillement de l'autre qu'on reçoit l'autre de Dieu. C'est ce qu'on a dit dans le sacrement de mariage, je te reçois comme époux, je te reçois comme épouse. Mais je te reçois de qui? De celui qui est la source de tout mon bonheur, Dieu.
Alors comment réapprendre, ça sera la dernière question de cet entretien du jour avec vous, dont Paul Préau, cet émerveillement de mon conjoint ou de ma conjointe, quand je ne sais plus m'émerveiller devant, au fond, cette belle création qui m'est donnée.
Mais c'est déjà une école, se mettre à l'école de la création, parce que là, la beauté de la création me parle de la bonté du créateur, donc bien évidemment, être déjà en état de contemplation face à la création, face à la parole de Dieu aussi, face au visage du Christ, oh, magnifique ça, le Christ qui est l'image invisible du Père, donc, cette contemplation nous aide, et dans cette contemplation arrive la contemplation du conjoint. Je regarde l'autre, je le regarde parce que je l'aime, je le regarde parce que je vois son mystère. Et ça, c'est une école de vie intérieure.
Et on en revient à cette vie intérieure. Alors cette vie intérieure aussi va nous conduire dès demain donc à terminer cette belle série autour du couple. C'est une histoire à deux. C'est un chemin de vie et au fond, un chemin de conversion, un chemin de dépouillement, d'abandon, de restauration, de consolation. Et puis pour s'émerveiller à nouveau en regardant mon conjoint ou en regardant ma conjointe. Demain, le secret, ça sera cette fidélité. Voilà. Comment, au fond, dans cette communion, ce chemin, rester fidèle, une fidélité pour viser cette éternité. Dom Paul Préau, à demain, même lieu, même heure.
Ah, merci.